Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le bachot, c'est fini. Ce lundi ont commencé les épreuves communes du nouveau baccalauréat. Une page se tourne, l'école va de l'avant et se veut toujours plus en pointe, pédagogiquement, j'entends. Pourtant, dans l'esprit des Français, plane un doute, comme une crise de confiance souterraine à l'égard d'une institution, dans le fond chère à tous, un flottement que l'on a du mal à nommer. C'est aussi la conviction de mon invité de ce matin. L'école souffrirait non tant du manque de générosité de chacun de ses acteurs, mais parce qu'elle aurait perdu sa boussole, son or. Au menu, de notre bachot à nous de ce matin, analyse et commentaires des raisons de la crise de confiance des Français en l'école de la République. Les raisons d'être de l'école, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler, Hélène Gazot, vous êtes ancien chef d'établissement de l'enseignement catholique pour l'Académie de Toulouse et professeur, donc ancien professeur aussi d'économie et de gestion dans le secondaire et le supérieur. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup de faire un détour par nos studios. Alors, vous n'avez pas écrit de livre, vous êtes juste une praticienne. Vous avez donné une conférence il y a quelque temps à Toulouse, conférence qui aurait pu être donnée ailleurs et qui nous a intéressés. On s'est dit qu'on allait vous inviter. Alors, vous avez vu que la barre est haute. Je ne sais pas si ce n'est pas un sujet d'agrégation qu'on vous a donné ce matin. Analyser, commentaire, des raisons d'être, des raisons de la crise de confiance des Français en l'école de la République. Tout ça en moins d'une heure. Bref, bon courage. On s'est dit qu'on allait commencer quand même par deux, trois éléments d'actualité. Il y en a deux, en tout cas récemment on a entendu parler de l'école pour ces deux raisons. La première c'est donc le bac et ensuite c'est les manifestations des enseignants à l'occasion de la réforme des retraites. Sur le baccalauréat, donc les épreuves ont commencé lundi dernier, c'était histoire, géographie et langue en contrôle continu. Il y aurait bien d'autres choses à dire, la manière peut-être dont le bac se passe aujourd'hui, hein. Il y a des épreuves en continu, un contrôle final avec voilà aussi une péréquation en fonction des notes au long de l'année. La question que j'aurais envie de poser à la chef d'établissement que vous êtes, et peut-être parce que vous avez plus de liberté de parole, vous, comment vous voyez cette réforme du bac d'un bon œil ?
Alors je pense qu'il y a des choses très positives dans la réforme du bac et des choses qui étaient peut-être un peu dans l'ordre aussi des choses. L'inspiration de la réforme du baccalauréat est assez européenne. Et on voit effectivement dans des pays comme l'Allemagne, où la part du contrôle continu est très importante. Les épreuves finales sont de plus en plus réduites. En plus, M. Blanquer a lancé une réforme globale sur le lycée. Ça paraissait peut-être judicieux de réformer le bac. Maintenant, c'est un grand changement pour la France, parce que, comme vous le savez, le bac, c'est en fait un diplôme de l'enseignement supérieur. Ça ne sanctionne pas l'enseignement secondaire. C'est le premier diplôme de l'enseignement supérieur.
Non, je ne le savais pas, voilà. Vous me l'apprenez.
Et du coup, il y a aussi l'attachement au baccalauréat, et on a toujours dit le baccalauréat du système français, c'est vraiment un examen qui a toutes ses lettres de noblesse, qui est effectivement le plus objectif possible. Et l'instauration du contrôle continu met des doutes dans cette théorie du bac, un examen objectif qui se passe
équitable,
exactement, de la même façon pour tous les élèves, aux mêmes dates, avec les mêmes épreuves. Alors que là, on n'est pas du tout dans ce schéma-là, puisque le contrôle continu va représenter 30%, le livret scolaire 10%, et donc on est à 40%, il reste simplement 60%. Pour
le contrôle final. Alors juste, puisqu'on en est à interroger les raisons d'être de l'école, on entend que d'autres pays le font, mais parfois on se dit aussi que c'est pas toujours un bon argument quand les autres le font de le faire soi-même. Qu'est-ce que vous avez compris de la raison principale qui préside en fait à cette réforme du baccalauréat, vous ?
Alors, la raison principale, c'est, je pense, la raison qui consiste à faire du bac, je reprends les termes de M. Blanquer, un tremplin vers la réussite dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire permettre effectivement peut-être une plus grande facilité, c'est pas tout à fait le terme, mais une plus grande possibilité aux élèves d'obtenir le bac et un bac qui les prépare à l'enseignement supérieur. Parce qu'on y reviendra peut-être, vous le savez, M. Jospin avait souhaité que 80% d'une classe d'âge soit au niveau du bac. On y est. Depuis la première fois, en 2019, on a atteint ces 80%. Ça ne veut pas dire 80% de succès au bac. Ça veut dire 80% d'une classe d'âge au niveau du bac. Mais c'est sûr que ce n'est pas le cas dans tous les bacs. Ce n'est pas le cas dans le bac technologique. Ce n'est pas le cas dans le bac professionnel. Et donc, l'idée, c'est de permettre à tous les élèves de mieux réussir dans la filière qu'il s'est choisie en fonction de son orientation future. Et dans la réforme de lycée, il y a une part très importante qui est faite à l'orientation et au temps qui est pris dans l'emploi du temps de l'élève pour avancer dans son orientation et du temps qui est consacré dans le conseil de classe pour permettre de voir si les matières prises par l'élève correspondent bien à sa filière.
Donc moins faire du bac un an soi, c'est ce qu'on entend, mais en tout cas mieux préparer au supérieur. Ce que je vous propose, voilà, c'est qu'on se plonge plus rapidement peut-être que prévu dans le sujet du jour. On aurait pu parler donc de la réforme des retraites, parce que les enseignants ont largement manifesté, mais le temps étant compté, je me dis qu'il est bon de commencer par le vif du sujet, ou tout du moins de rentrer dans le vif du sujet, du moins d'annoncer la suite de ce qu'on va évoquer. On va prendre le temps, surtout donc dans la deuxième partie, d'essayer de voir un peu les différents acteurs de l'école et la manière dont ils vivent cette crise, le pourquoi de cette crise, les mots de l'école, et puis à la fin de l'émission, vous me direz ce pourquoi, quelle serait la finalité de l'école. C'est en effet donc la finalité pour vous qui n'est pas au clair, et pour ça vous commencez tout simplement par l'étymologie de l'école. Dites-nous quelle est l'étymologie de l'école, et dans le fond, quelle finalité désigne cette étymologie, Hélène Gazeau?
Alors, si on cherche effectivement l'étymologie de l'école, on trouve que le mot école vient du latin scola, qui veut dire loisir consacré à l'étude. Et ce mot de scola vient lui-même du grec scolé, le loisir. Alors, ça fait peut-être un peu bizarre d'entendre à notre époque que l'école, c'est du loisir consacré à l'étude. On retrouve l'école, mais le loisir. Et c'est vrai que quand on essaye d'approfondir un petit peu les raisons d'être de l'école, si on revient à cette étymologie du loisir, ça changerait peut-être un petit peu la conception. Et même si je pense qu'il y a heureusement des enfants qui ont plaisir à aller à l'école, si considérer que l'école est un temps de loisir, ça pourrait peut-être aussi favoriser les apprentissages et le goût de la transmission, le goût des matières et le goût du travail, on va dire, du travail bien fait.
Alors vous dites que du coup, quelque part, en fait, le temps que l'on passe à l'école, il faut le concevoir comme un temps voulu pour lui-même. Ça veut dire quoi ?
C'est vrai, on en reparlera peut-être, qu'au fur et à mesure de l'avancée des réformes et de la société, on a de plus en plus demandé à l'école d'être, on va dire entre guillemets, opérationnel, c'est-à-dire de former les enfants à un métier, de former les enfants à être de bons citoyens. Et on a peut-être malheureusement négligé un peu la part de l'étude en tant que telle, c'est-à-dire l'enrichissement personnel, intellectuel, la formation de l'esprit, ce qui fait en fait un peu la nature de l'homme, et l'enseignement qui peut être entre guillemets gratuit. Alors, ça reste, mais on voit que par exemple dans certains programmes, on supprime de plus en plus tout ce qui concerne l'histoire de la matière. Voilà, pourquoi on en est arrivé là? Partant du principe que pour travailler... plus tard, comme ingénieur, c'est peut-être pas très important de savoir l'histoire des mathématiques. Bon.
Est-ce que vous auriez un exemple dans votre carrière ? Je rappelle que vous avez été donc chef d'établissement dans l'enseignement catholique et puis aussi donc professeur dans le secondaire et dans le supérieur, de cette vision un peu utilitariste de l'école, quelque part, à vous entendre, qu'on aurait développé de plus en plus au fil des années ?
Alors, à la fois, cette vision s'est traduite dans les programmes. On a évacué des programmes, un certain nombre de chapitres, on va dire, que ce soit dans les matières comme l'histoire, la géographie. Et en même temps, il faut être honnête, on a introduit dans des programmes des notions qui étaient actuelles, c'est sûr. Mais c'est vrai que On a un peu dévié. Excusez-moi, vous pouvez me reposer la question.
Non, par exemple, est-ce que vous aviez l'impression, comme chef d'établissement, d'être de plus en plus un prestataire de service, en fait, pour les élèves et pour les parents, et que les parents ne voyaient pas d'abord l'école comme un en soi et un lieu d'apprentissage de la culture, de transmission d'une culture? Vous aviez parfois ce sentiment comme chef d'établissement au long des années?
Alors, ça a été parfois le cas. Je fais là aussi une parenthèse. J'ai toujours été dans l'enseignement catholique. Et donc, dans l'enseignement catholique, on a un projet éducatif qui peut-être permet effectivement et qui met en avant, outre effectivement les valeurs catholiques, tout ce qui concerne la personne et l'élève. Donc, on a toujours eu, à l'intérieur du cadre scolaire et du cadre des programmes qu'on devait respecter, une marge de liberté. Mais c'est vrai que on a vu des parents, par exemple, au niveau de l'emploi du temps, chercher quelles étaient les matières les plus utiles, les plus utilitaires, et nous dire, c'est pas très important, j'ai dû prendre un rendez-vous pour lui, donc je l'ai mis sur ce cours-là. On voyait donc que les parents faisaient un peu une distinction entre les matières qui allaient être opérationnelles, on va dire, et les matières beaucoup plus gratuites qui étaient de la formation globale de la personne.
Alors après, donc, vous prenez le temps d'évoquer chacun des acteurs de l'école et d'essayer de voir, et ce de manière pas du tout manichéenne, quels sont un peu les maux qui traversent, ou on va dire les erreurs que peuvent commettre selon vous ces acteurs. Vous dites ça évidemment en toute humilité. Hein. On va commencer par le ministère, et vous appelez ça le ministère et les théoriciens. Vous faites un peu d'histoire, on va dire, de l'éducation nationale. Vous nous rappelez qu'au début, l'éducation nationale ne s'appelait pas comme telle. En 1828, l'instruction publique devient un ministère, et en 1932, Édouard Herriot rebaptise le ministère de l'instruction publique, donc éducation nationale. Cette distinction qu'on entend parfois, Hélène Gazot, en fait, qu'est-ce qu'elle signifie? Pourquoi il est bon de la rappeler?
Il est bon de le rappeler parce qu'on a vu l'évolution que le gouvernement, la politique donnait au rôle de l'éducation, enfin d'abord de l'instruction et l'éducation. Dans un premier temps, c'est vrai, on était dans l'instruction. Donc les professeurs, toutes les personnes en charge devaient instruire. Et on a petit à petit glissé vers l'éducation, ce qui n'est pas forcément un mal, bien au contraire, puisque l'enfant, c'est une personne globale, et qu'il a aussi à être... dans son comportement, de pouvoir effectivement être quelqu'un d'éduqué, on va dire. Mais peut-être aussi le fait que tout ce qui était instruction est devenu beaucoup plus politique. L'instruction a longtemps été réservée peut-être à une élite, et puis a été faite par des personnes qui n'avaient pas le statut d'enseignant ou autre. Quand tout ça s'est mis en place, c'est sûr qu'il y a eu un peu une mainmise au niveau de l'État de ce qu'il voulait faire de l'instruction et de l'éducation. Mais je pense que c'est une bonne chose de lier les deux, encore une fois parce que l'élève est une personne dans sa globalité. Il y a à la fois l'intelligence, le développement de l'intelligence, mais il y a aussi la vie en communauté. On n'est pas sur une île déserte. Et si on peut apprendre dans le cadre de l'école comment on a cette vie en communauté, la relation avec l'autre, c'est aussi intéressant.
Alors, parmi les réformes, vous en citez de nombreuses, on ne peut pas être exhaustif. Vous parlez d'une réforme Abi en 1977, qui lance le collège unique sur l'égalité des chances. Après, vous parlez donc de la création des bacs technologiques et professionnels. Vous évoquez aussi donc cette fameuse loi Jospin, vous en avez déjà parlé, de 1989, avec cette injonction, donc 80% d'une classe d'âge, au niveau du baccalauréat. Au long de, peut-être pouvez-vous en citer d'autres, hein, je vous laisse le faire, mais à vous lire ou à vous entendre, on a l'impression qu'en fait il y a comme un double mouvement, c'est-à-dire qu'on voudrait que l'école soit à la fois, j'allais dire, la plus équitable possible, la plus commune possible. Il y a un mouvement d'unification, et en même temps vous dites qu'au cœur de ça il y a une forme d'individualisation des parcours. Mmh. Alors qu'est-ce que c'est que cette injonction contradictoire que vous pointez du doigt?
Alors, le collège unique, effectivement, montre bien l'uniformisation et l'idée d'une instruction de masse, je veux dire.
Alors, rappelez ce que c'est que le collège unique.
C'est en fait que tous les élèves aient les mêmes parcours au niveau du collège, les mêmes matières. les mêmes classes.
C'était donc pas le cas avant, parce que moi je suis de la génération où on a connu le collège unique, donc ça n'était pas le cas
non,
avant.
Non, il y avait des possibilités, d'accord. On pouvait s'arrêter après la cinquième, il y avait l'ancien certificat d'études, mais c'était d'ailleurs même avant, il y avait des paliers au niveau de la cinquième. De la cinquième, je dis bien, pardon, mais du collège. On n'avait pas un collège qui allait de la sixième à la troisième de façon uniforme. À l'intérieur, il y a eu des classes avec une vocation un petit peu plus professionnelle, mais c'était des matières. L'enseignement du tronc commun était équivalent. Et l'accès au collège était le même pour tous les élèves. Il n'y avait plus d'examen, justement, entre le CM2, enfin la septième à l'époque, et le collège. Et en même temps, donc, on a essayé de voir comment l'enfant pouvait être au centre du système éducatif. C'est la loi Jospin, importante, de 1989. L'élève au centre du système éducatif. Donc, tout faire pour que l'enseignement permette effectivement le meilleur, on va dire, épanouissement de l'élève. Ça a entraîné, on en reparlera peut-être, des nouvelles pédagogies. Mais en même temps, effectivement, qu'on disait qu'il faut donner accès à tout le monde au même enseignement, on disait, attention, il faut que l'élève puisse avoir toute sa place au sens que les programmes, que l'attention des profs, que la pédagogie partent de l'élève.
Alors, mais en quoi est-ce un mal, Hélène Gazeau, juste ? Parce qu'on peut se dire que d'essayer de faire une école qui emmène le plus d'élèves possible loin dans un savoir commun et en même temps d'avoir une attention à chacun, faisant en sorte quand même qu'il y ait une forme d'adaptation à ce qu'il est, ce qu'il vit, à ses capacités de progression, en quoi cette injonction apparemment contradictoire serait mauvaise ?
Alors, je n'irai pas à dire que c'est un mal. Je dirais que ça a peut-être détourné ou peut-être mis en sommeil une des missions de l'école. Si on part du fait que l'école doit être uniquement une école qui va développer chez l'enfant des aptitudes pour qu'il puisse trouver un métier, pour qu'il puisse être dans la société, si on dit qu'il faut concevoir toutes les pédagogies pour que l'enfant puisse se sentir concerné, le danger, mais ça peut coexister, c'est de négliger un peu la part de tout ce qui est la transmission, de tout ce qui est les fondamentaux, on va dire, tout ce qui fait la base et surtout qui permet d'avoir des points d'appui pour forger sa liberté, son
libre arbitre.
Son libre arbitre, exactement. Et sa réflexion aussi.
Vous dites aussi la chose suivante, une conséquence logique de cette conception donc, est rarement évoquée, centrée à ce point sur l'élève, soucieux de son insertion positive dans la vie professionnelle, elle ne se demande pas ce que lui-même pourrait apporter à la société.
Oui.
Ce qu'on comprend, c'est que ce serait un début de réponse, cette crise de l'école, c'est qu'au cœur de l'école, il n'y a plus en fait un bien que l'on cherche, vous allez même nous dire une vérité que l'on poursuit, mais peut-être l'élève. On va faire une première pause, Hélène Gazeau, et on vous retrouve pour parler de d'autres acteurs. Chacun va devoir faire son examen de conscience. Vous allez nous parler des profs, des élèves et des parents, sans montrer personne du doigt, mais pour continuer à développer votre analyse.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Les raisons d'être de l'école, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin et le sujet du baccalauréat de haut vol que nous propose donc notre invitée de ce matin, Hélène Gazo. Vous êtes ancien chef d'établissement de l'enseignement catholique pour l'Académie de Toulouse, l'Académie de Toulouse étant très large, hein, vous êtes ancien professeur d'économie et de gestion dans le secondaire et le supérieur. Vous avez donné récemment une conférence sur ce thème dans le cadre d'une formation en anthropologie chrétienne. Passeur d'espérance, on redonnera les coordonnées de ces formations qui sont données depuis quelques années maintenant à Toulouse et qui peuvent être délocalisées dans les différents départements de notre région. Hélène Gazo, si on continue donc à voir les différents acteurs de l'école pour cette analyse en clair-obscur, on s'est dit donc qu'on allait parler des profs. Alors les profs, vous les connaissez bien, vous en avez été vous-même à vous lire ou à vous entendre, puisque c'était une conférence orale, il y aurait en fait peut-être une souffrance cachée chez les profs. Vous dites qu'en fait on est toujours professeur parce que un jour on a été passionné par une matière et dans le fond on a envie de transmettre. Commencez peut-être par ça, par ce coup de foudre du prof que vous avez identifié.
Alors c'est vrai que là, je parle essentiellement des professeurs de collège ou de lycée qui ont effectivement été passionnés par une matière, souvent d'ailleurs parce qu'ils ont complètement adhéré à la façon de faire de leur enseignant, qui a su eux-mêmes les passionner, et cette envie effectivement de transmettre. De transmettre comme une passion, comme on l'a dit, mais aussi parce que ils ont le sens aussi de des élèves et de l'autre et qui se disent que comme eux ils ont été heureux en apprenant cette matière, et les élèves pourront aussi être heureux en apprenant cette matière. Donc c'est souvent ce qui est à l'origine de la vocation, on va dire, d'un enseignant. Pour les professeurs des écoles, c'est vrai qu'on retrouve aussi le goût de différentes matières. Mais là, on est peut-être plus sur aussi ce qui l'emporte, c'est l'enfant. Comment on va pouvoir aider l'enfant à devenir petit à petit un futur élève de collège? Comment on va lui apprendre tout ce qui fait la base, écrire, lire et compter, et surtout lui donner l'amour d'aller à l'école et éveiller en lui cette envie d'apprendre.
Alors, est-ce que vous pourriez nous parler des pédagogies? Parce que ce qui viendrait, quelque part, à vous lire, un peu saper le moral des troupes et des professeurs, des enseignants, et probablement plus peut-être qu'ils ne le disent, ça serait certaines dérives pédagogiques aujourd'hui. Alors ça ne surprendra pas certains auditeurs. Vous dites que toutes les innovations pédagogiques ne sont pas mauvaises, mais vous pointez du doigt certaines, comme par exemple la pédagogie inductive. Vous nous expliquez ce que c'est que la pédagogie inductive?
Alors, la pédagogie inductive date déjà depuis quelques années. Elle rejoint effectivement ce qu'on disait tout à l'heure de mettre l'élève au centre du système éducatif. Et on se dit, on va partir de ce que sait l'élève pour bâtir le cours. Donc, quand le professeur aborde une notion, il va d'abord demander aux élèves qu'est-ce que évoque cette notion. Alors, le bon côté, c'est que ça permet d'évacuer peut-être des fausses idées, des fausses définitions. On a les faux amis aussi au niveau du vocabulaire. Par exemple, quand on parle d'économie, l'économie, ça peut être l'argent qu'on met de côté, mais ça peut être aussi le système économique. Donc, si un élève vous répond « je mets l'argent de côté », on lui dit « attendez, non, on ne va pas forcément voir ça ». Ça a du bon côté aussi. Mais c'est vrai que chaque fois, on se part du principe que l'élève va, entre guillemets, bâtir le cours. Je caricature un peu, parce qu'une fois que le professeur a permis aux élèves de s'exprimer, il a préparé son cours et il va pouvoir donner, une synthèse de la notion et puis faire passer les contenus académiques, on va dire, de cette notion. Ça a été très en vogue, notamment à la fin du siècle dernier, pour un peu combattre le cours magistral. Parce qu'on considérait que pendant le cours magistral, l'élève est passif, il prend des notes, mais c'est le prof qui parle. Alors que dans la pédagogie inductive, comme dans la classe inversée qui voit le jour, on part de l'élève. C'est lui qui est premier dans la construction du cours.
Alors vous allez plus loin, c'est-à-dire que vous laissez entendre que à travers cette innovation pédagogique ou en tout cas ce mouvement de fond, on peut y débusquer un certain relativisme, c'est-à-dire.
Ben, il faut faire attention que justement, du fait qu'on fait participer les élèves, le professeur reste attaché à la vérité, si je peux dire, et que le cours ne soit pas un syncrétisme et ne soit pas simplement le résumé de la pensée des élèves. Donc, c'est pour ça que je disais, le professeur, il aura certainement préparé le cours tel qu'il lui semble et tel que les instructions officielles et tel que tout simplement peut-être la vérité l'impose, pour ne pas dire aux élèves... Je vais faire le résumé de tout ce que vous m'avez dit. On va se servir de ce que vous avez dit, mais voilà, entre guillemets, la vérité par rapport à cette notion-là. Il faut faire attention à ça, à garder toujours cette idée qu'il y a une nécessité d'être, de transmettre encore une fois la vérité.
Il y aurait une autre réalité, c'est les fameuses notes. Alors ça va faire plaisir peut-être à certains. Expliquez-nous où on en est par rapport aux notes pour ceux qui ne seraient pas à la page et pourquoi vous y voyez aussi, vous posez un point d'interrogation. Cette fois, vous y voyez un peu une dérive matérialiste. Expliquez-nous. Oui.
Alors, c'est vrai que pendant très longtemps, il n'y a eu que la note chiffrée qui a été utilisée pour sanctionner, mais sanctionner au bon sens du terme. Hein. La sanction est positive. Quand on a 20, c'est une sanction d'un devoir. Et donc, on a utilisé une note. Et puis, justement, dans l'évolution des courants pédagogiques, on s'est dit que peut-être il y avait autre chose que la note. Et surtout, ça a pris son ampleur avec l'apparition de ce qu'on appelle le socle commun des connaissances et des compétences. Évaluer une compétence par une note, c'est compliqué. On évalue une compétence, savoir si elle est acquise, si elle est en voie d'acquisition, si elle est à parfaire, etc. Et donc, on a pris l'habitude de dépasser la note et de donner une évaluation. Alors, même dans les petites classes. Et puis, certains pédagogues ont considéré que la note avait un côté traumatisant, qu'il valait mieux mettre des pastilles, qu'il valait mieux dire à l'enfant, t'inquiète pas. Alors, ce qu'on pouvait dire avec une note, hein, mais voilà.
Est-ce à dire qu'il n'y a plus de notes aujourd'hui ?
Il y a toujours des notes, bien sûr que oui, il y a toujours des notes, et à la fois en collège, en lycée, mais en école aussi. Il y a, on va dire, une certaine liberté laissée de mettre ou pas des notes. Et le bon côté, c'est que les professeurs ont fait des équipes pédagogiques, parce qu'il faut une certaine homogénéité quand même dans le cadre de l'école, du collège, en disant, voilà, comment on va travailler l'évaluation ? Et un travail sur l'évaluation est toujours excessivement positif. Donc, il y a toujours des notes, mais effectivement, on peut évaluer autrement.
Alors, pourquoi est-ce que vous y voyez une dérive, cette fois, matérialiste ?
Parce que...
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Au niveau de la note, les parents... Enfin, pardon, pour les parents, mais la communauté éducative, l'élève lui-même ou les parents ont toujours peut-être une tendance à... s'attacher à la note. Combien de fois on l'a vu, je parle d'un cas concret, je rendais une copie, ah, j'ai 6. Oui, c'est pas très bien, mais pourquoi tu as 6 ? Qu'est-ce qui est important ? Et inversement, j'ai 12. Ah, bon, ça va, c'est 12, je suis tranquille. Mais non, c'est pas suffisant. Et donc, de avoir simplement...
C'est parce que 12 n'est pas suffisant ou c'est parce qu'en fait, il faut y lire davantage, c'est ça, à vous lire.
Voilà, vous exactement. 12 peut être suffisant en soi, quoique on peut toujours faire mieux. Mais, et on a vu aussi des élèves qui, justement, s'arrêtaient tellement à la note qu'ils se disaient, oh, ben, j'ai la moyenne, donc ça va bien. Et les parents qui étaient parfois, comment vous dire, dans l'incompréhension et donc parfois un peu... en colère, en disant « Mais je ne comprends pas, il a beaucoup travaillé, je l'ai aidé, il n'a que cette note-là. » Donc, les notes, il ne faut pas les... À mon avis, il faut surtout les garder parce que aussi, c'est le système d'évaluation de l'enseignement supérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir comment on aide un élève à progresser. Moi, j'ai beaucoup... Quand j'ai commencé à enseigner dans l'enseignement technique, l'enseignement en G, le bac G venait de naître. Les élèves avaient du mal à comprendre pourquoi ils étaient là, en fait. Et donc, l'idée, c'était de leur montrer le parcours qu'ils allaient pouvoir faire, qu'ils n'étaient pas plus en difficulté que d'autres. Ils avaient simplement une forme d'intelligence différente. Et si on peut effectivement, à travers la notation, montrer à, un élève sa forme d'intelligence, mais en complétant la note par des appréciations, par un système d'évaluation positif, c'est une bonne chose.
En tout cas, ce qu'on entend dans votre remarque, puisque là on va s'arrêter pour les enseignants, c'est que vous nous disiez que dans le primaire, le travail des profs, c'était de donner dans le fond, des enseignants, c'était de donner dans le fond l'amour de l'école. Là, ce que vous interrogez, c'est que les professeurs, eux, seraient leur métier et leur passion secrète, ça serait de faire passer l'amour de l'étude ou l'amour du savoir. Alors maintenant, on va se pencher, on va aller du côté des élèves. Du côté des élèves, bien des choses à dire. Par quoi voudriez-vous commencer? Vous dites que en souriant, la plupart du temps, d'abord, quand on est élève, on va à l'école parce qu'on a envie de retrouver les copains. On imagine qu'il n'y a pas de mal à ça. Qu'est-ce que du côté des élèves, vous aimeriez souligner aujourd'hui comme point d'interrogation pour vous?
Quand on voit le comportement des élèves en classe, comme vous disiez très justement, ils aiment souvent venir à l'école pour retrouver les copains. Ils y passent 8 heures par jour, donc c'est quand même important. On retrouve effectivement cette idée de communauté, qu'on n'est pas tout seul et qu'on construit quelque chose avec les autres. Ce qu'on constate dans l'évolution de la mentalité, on va dire, des élèves, c'est la prise en compte du facteur temps. Quand j'ai commencé, on pouvait mener avec des élèves des projets qui duraient peut-être pas toute une année, mais bien un trimestre. Là, c'est fini. Il faut que le projet il dure le minimum de temps. On est dans la civilisation du zapping, et il faut que ce qu'on fait,
marche.
Je mets des guillemets, ça marche et ça paye tout de suite. J'ai travaillé, donc je dois avoir une bonne note. La notion de durée, de prise en compte du temps est quelque chose qui est excessivement difficile à faire passer aux élèves. Et quand je parlais de projets, je pense parfois à des projets, on va dire, humanitaires qu'on a mis en place. Ils sont d'une générosité extraordinaire. Peut-être, je disais même aux professeurs, plus généreux qu'on ne l'est. Ils prennent les situations à cœur. Pour aider quelqu'un, ils prennent la situation à cœur. Mais il faut que ce soit vite fait, que ça ne dure pas toute une année. On va passer à autre chose. Donc ça, je pense qu'au niveau de l'éducation dont on parlait tout à l'heure...
C'est-à-dire qu'on ne serait plus dans la même temporalité, c'est ça?
Non, ou... on n'est plus dans la même temporalité. On n'est plus. Et il y a des temps qui sont pris maintenant dans les écoles, y compris dans le primaire. Et d'ailleurs, le primaire a été novateur à ce niveau-là pour dire, dans le cadre scolaire, stop, on va marquer une pause. On a même employé le terme de recherche d'intériorité. On y a beaucoup travaillé, nous, à une époque, dans l'enseignement catholique, de dire, attendez, on prend du temps. On prend du temps pour assimiler, on prend du temps pour faire silence, pour construire sa pensée. Moi, j'ai été frappée, là, dans mes dernières années de chef d'établissement, vous n'aviez pas fini de poser la question que vous aviez 5 doigts qui se levaient. Et je disais, mais attendez, je vais vous dire quelle est ma question globale. Ah oui, vous n'avez pas fini, madame. Et non, mais vous avez dit ça. Mais oui, mais je n'ai pas fini. C'est un exemple très concret. Alors, ça montre qu'ils sont passionnés, intéressés. Mais on ne laisse pas le temps. On ne laisse pas toute sa place au temps.
Vous laissez entendre aussi qu'il y aurait donc une vision utilitariste de l'école. Les élèves, légitimement, se demandent en fait pourquoi ils étudient, se demandent à quoi ça sert. Mais que, dans le fond, on attendrait des modes d'emploi, des recettes concrètes pour réussir.
Oui.
Y a un autre point que vous soulignez, donc à travers ce parcours qu'on fait prof, élève, parent, donc vous dites qu'il y aurait sournoisement donc une forme de relativisme, de matérialisme et d'individualisme. Alors on se dit à vous lire que vous êtes pas tendre avec les élèves, mais vous laissez entendre qu'il y aurait aussi de plus en plus d'individualisme du côté des élèves. Une espèce de manière de se caricaturer ou de se défier de l'autre. Est-ce que ça n'a pas toujours été le cas, Alain Gazot, l'adolescence est-ce qu'elle est, non?
Oui, c'est vrai, mais je pense qu'actuellement, et alors sans rentrer dans les poncifs des réseaux sociaux, des moyens modernes de communication, il y a effectivement peut-être une plus grande visibilité de la peut-être pas employer le terme de harcèlement, mais du fait que les élèves sont pas forcément gentils les uns avec les autres et qu'ils on l'a vu au niveau effectivement de des informations parfois à des élèves qui ne supportent pas cette prise en otage entre guillemets des uns par rapport aux autres. Donc c'est vrai que il y a à être prudent et à être surtout attentif à ça. Et c'est aussi une des craintes des parents, hein, de que leur enfant soit rejeté. Comme vous dites, les enfants, ils ont toujours voulu, entre guillemets, être comme les autres, surtout dans les petites classes, ne pas se différencier, être reconnu comme faisant partie, on va dire, de la communauté des élèves. À l'adolescence aussi, on a vu des phrases, je me rappelle aussi, un jour j'avais sanctionné un élève parce qu'il s'était adressé de façon, me semblait-il, très désobligeante à un autre de ses copains. Et il m'avait répondu, une fois la sanction faite, parce que c'était un élève qui était obéissant, « Mais madame, vous savez, on se parle comme ça, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, mais on se parle, voilà. » Donc, comme vous dites, ça a toujours existé. Mais je crois qu'il y a à être attentif, parce que les élèves, peut-être par autodéfense, ils peuvent être très agressifs les uns vis-à-vis des autres et en utilisant les réseaux sociaux.
Je vois le temps qui passe, Hélène Gazot. Pour les parents, on va peut-être faire un peu plus court. Mmh. Les parents, donc vous nous expliquez un petit peu dans quelle situation ils sont. Ils attendent de l'école, donc que ce soit un lieu d'apprentissage des fondamentaux. Ils ont en perspective l'avenir de leurs enfants et c'est bien légitime. Mais à vous lire, en fait, les parents aussi auraient une part de responsabilité, c'est-à-dire qu'ils seraient plus tout à fait au clair sur la mission de l'école. La mission de l'école, selon vous, ne serait plus vue par les parents d'abord comme un lieu d'apprentissage de la culture, en fait.
C'est assez exact. Quand on regarde un peu, effectivement, le souhait des parents, ils veulent une école qui prépare leurs enfants à la vie future, à la vie professionnelle, un bon métier, la possibilité de choisir les études supérieures. Et c'est tout à fait légitime. On veut le bonheur, entre guillemets, de ses parents, de ses enfants, mais peut-être, effectivement, néglige un peu le fait qu'il y a aussi un enseignement qui peut être gratuit, qui peut ne pas servir au sens économique du terme. Parfois aussi, on voit des parents qui, et c'est un côté qui rejoint le côté éducatif, qui veulent que l'enfant, non seulement se dépasse sur le plan intellectuel, mais apprennent aussi la relation à l'autre. Et j'en profite pour dire que, notamment dans l'enseignement catholique, on a développé depuis plusieurs années, et sur le diocèse de Toulouse, mais pas que, pour les enseignants et pour les chefs d'établissement, une éducation à la relation, avec l'idée que, justement, dans les écoles, la relation à l'autre est un facteur, un passage obligé, on va dire, à la fois de la vie en société, de la communauté éducative, mais de l'apprentissage futur de ce que sera la communauté dans laquelle on va vivre, et de la famille.
On fait une courte pause musicale, Hélène, et puis on va vous retrouver pour que vous nous explicitiez donc cette finalité de l'école que vous dessinez en creux dans toutes ces remarques que vous faites. On peut trouver qu'elles sont dures, mais en même temps, les livres sur la crise de l'école sont nombreux, donc ça ne surprendra pas forcément les auditeurs. Vous nous redirez quelle est la finalité de l'école, ce bien que l'on poursuit, et même cette vérité que l'on cherche chacun et ensemble.
Yeah. Plaisance, sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Les raisons d'être de l'école, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, cette semaine du baccalauréat, nouvelle mouture du baccalauréat et donc premières épreuves de contrôle continu. Nous sommes avec Hélène Gazot, ancien chef d'établissement d'enseignement catholique et ancien professeur d'économie et de gestion dans le secondaire et dans le supérieur. Hélène Gazot, vous avez une affirmation un peu audacieuse. Vous dites que dans le fond, la vocation de l'école, c'est de chercher la vérité. Est-ce que c'est pas aujourd'hui justement ce qu'il ne faut pas dire?
Je pense que faut pas dire que l'école ne recherche plus du tout la vérité, bien au contraire. Mais je pense qu'effectivement, quand on essaye de dépasser le côté, on va dire, quotidien de l'école, et qu'on essaye de revoir à quoi sert l'école, et on se pose la question, effectivement, de la recherche de qu'est-ce qui fait le bien de l'homme. Et le bien de l'homme, c'est à la fois de développer son intelligence et sa volonté, de développer corps et esprit. Et pour développer cette activité de l'intelligence, la meilleure part de l'homme, c'est effectivement la recherche de la vérité. La recherche de la vérité, c'est ce qui va permettre, dans la conception notamment des philosophes, mais aussi, je crois, de façon personnelle, la recherche du bonheur. Si l'école, effectivement, a pour but de montrer aux élèves et aux personnes qui y travaillent l'importance de la vérité, alors la vérité qui peut effectivement se décliner ensuite dans le concret, parce que on est dans le quotidien, on est fait de chair et d'os, comme on dit. Mais si on a ce but de toujours voir qu'est-ce qu'est la vérité, on peut aider l'homme à se réaliser complètement, on peut aider l'élève à devenir véritablement, comme je l'avais dit dans la conférence, un homme debout et en marche, un homme qui grandit.
Mais Hélène Gazot, un autre moment, vous dites qu'aujourd'hui, dire que la finalité que l'on recherche, en fait, quelque part secrètement, tous ensemble, à l'école, dire que c'est la vérité, en fait, c'est une forme d'aujourd'hui de viol de l'esprit, en fait. Dans un monde relativiste, dire qu'il y a une vérité, surtout qu'à vous entendre, c'est pas seulement la vérité d'un savoir plus un autre plus un autre. Il faut voir une vérité au-delà, une vérité sur l'homme, en fait.
Oui.
Est-ce qu'il y a là pas une impossibilité, en fait, aujourd'hui, de cette recherche ou de cette explicitation de cette finalité de l'école?
Je pense que c'est peut-être effectivement plus difficile à l'heure actuelle et que la tentation, c'est de toujours donner, un tel pense ça, un tel pense ça, un tel pense ça. Ce qui n'est pas à négliger. Au contraire, il y a à pouvoir montrer l'évolution et comment effectivement il peut y avoir dans l'humanité des conceptions différentes. Mais entre annoncer une conception et dire vous choisirez ce que vous voudrez, entre donner le sentiment que tout est sur le même plan, je pense que cela, c'est une erreur. On n'est pas dans le syncrétisme, encore une fois. Il faut qu'on puisse montrer aux élèves quel est le but final de l'homme.
Comment, alors justement, j'allais y venir, parce que si ça n'est pas une vérité d'abord sur des savoirs, la vérité des maths, du français ou du sport ou des épreuves, de l'art plastique, si c'est une vérité qui est plus profonde, tous les lieux d'enseignement ne sont pas des lieux d'enseignement catholiques. Quelle est cette vérité que l'on peut expliciter à vous lire, en fait, c'est prendre conscience tout simplement qu'il y a quelque chose dans l'homme plus grand que lui, qu'il y a un bien, en fait, dont il hérite, qui serait sa nature. Qu'est-ce que ça veut dire?
Un homme, effectivement, indépendamment de l'enseignement catholique, il est âme et corps, il a un esprit. Et il faut voir comment, effectivement, cet esprit peut prendre, on va dire, le pas sur le côté matériel et aider justement à faire en sorte que l'homme vive comme un homme, en tant que personne, en tant que intégré dans une société, et pour nous, effectivement, dans l'enseignement catholique, en tant qu'enfant de Dieu, à la recherche, effectivement, du bonheur tel que Dieu nous incite à le faire. Quoi.
Vous avez cette expression, la connaissance de la vérité est le meilleur bien de l'intelligence de l'homme, puisqu'elle est faite pour cela. Et l'intelligence est la meilleure part de l'homme. Le bonheur de l'homme consiste donc dans la vie intellectuelle, dans le savoir, ou comme disaient les Grecs, dans la contemplation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la fine pointe de la finalité de l'école, c'est de faire des hommes qui sont capables de mettre en œuvre donc une intelligence et une volonté qui poursuit le bien. Mais même, en fait, l'école, le but de l'école serait d'introduire comme une forme de vie intérieure.
Oui, je pense tout à fait à ça. Que si effectivement le but de l'école...
Comment l'école républicaine peut introduire à la vie intérieure ? Qu'est-ce que ça veut dire, la contemplation, on va dire, laïque ?
Ben, je pense qu'effectivement, l'école peut montrer aux élèves, quelle que soit effectivement, qu'elle soit républicaine ou autre, ce que fait la véritable nature de l'homme. Et que l'esprit, entre guillemets, prime. Que la recherche du bonheur, c'est pas simplement effectivement une recherche matérielle. C'est une recherche qui fait la grandeur de l'homme, qui fait que l'homme va prendre toute sa dimension. Alors, soit en référence à la religion catholique ou éventuellement une autre, mais que le but de l'école n'est pas simplement de donner des moyens d'avoir plus de quelque chose. Vous savez, être et avoir. Le but de l'école, c'est de donner la possibilité d'être et pas simplement d'avoir.
C'est d'ailleurs le titre d'un très beau film.
Et c'est le titre d'un très beau film, absolument, Être et avoir. Et de se dire que si tout élève qui passe par le système scolaire, entre guillemets, est en lien avec les autres acteurs, les parents, parce que toute la vie ne se passe pas à l'école, avec peut-être la paroisse, avec d'autres associations, etc., c'est de dire, attends, ce qui est important pour toi, c'est que tu sois... toi, que tu sois dans ce qui fait ta richesse. Et cette richesse, elle passe par te connaître toi, par savoir qu'est-ce qui est tes points sur lesquels tu vas t'appuyer, les points que tu vas pouvoir mettre à disposition des autres. Comment tu vois ta vie pour que tu sois à la fois heureux dans le sens de la vie quotidienne, mais surtout heureux dans ton esprit.
L'école est faite pour donner aux enfants les moyens d'accéder au bonheur, oui, qui est une vie intérieure menée en esprit et en vérité. Je répète, l'école est faite pour donner aux enfants les moyens d'accéder au bonheur, qui est une vie intérieure menée en esprit et en vérité. Vous laissez entendre aussi que cette recherche de la vérité, elle demande une collaboration. Et c'est ce qui justifie d'être à l'école et de ne pas faire ça dans son coin, ou peut-être aussi de manière trop privative, juste à la maison. En quoi cette recherche de la vérité à l'école, elle prend cette dimension communautaire bien nécessaire ? Vérité et communauté, quelque part, à vous lire, c'est marcherait de pair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, si on revient à cette idée qu'effectivement, la recherche de la vérité fait partie effectivement de la recherche du bonheur, je crois que l'homme n'est pas amené à vivre sur une île déserte, et que dès le départ, montrer aux enfants et puis ensuite aux adolescents et plus tard après, qu'ils sont dans une communauté, qu'ils ont, si eux n'étaient pas dans cette communauté, il manquerait quelque chose. Mais si un autre élève n'était pas là, il manquerait aussi quelque chose. Que tout le monde doit avoir sa place, sa juste place, mais que c'est ensemble qu'on peut faire évoluer les choses. Je crois beaucoup à... au lien. J'ai souvent utilisé ce terme en activité, je l'utilise toujours. Je crois qu'on est en lien les uns avec les autres. Et toute expérience qu'on peut vivre personnellement peut aider un autre à grandir. Et cette idée de faire des liens, ça rejoint cette idée qu'on est ensemble et on fait avancer ensemble le monde dans lequel on est.
La recherche de la vérité est si complète qu'elle demande une collaboration, dites-vous. Surtout, cette dimension communautaire de la recherche de la vérité est la raison d'être de la transmission. Cette dimension communautaire de recherche de la vérité est la raison d'être de la transmission. C'est pour cela que l'école est le lieu du plus grand amour. En effet, aimer, c'est vouloir le bonheur de l'autre. Et vous rappeliez précédemment que le bonheur, c'est donc une vie intérieure menée en esprit et en vérité. Alors, puisqu'on est en pleine épreuve du bac, vous finissez par une notion qui peut paraître exigeante, Hélène Gazon, et on finira par ça. À vous lire, en fait, l'élève doit devenir, comment dire, comme un sage, hein, dans le fond, comme ils étaient éduqués, peut-être, les enfants chez les anciens. Chez les anciens, ça veut souvent dire dans la civilisation grecque. Vous parlez de la studiosité. Alors, c'est la fin de votre copie. Qu'est-ce que ça veut dire, studiosité ? Justifiez cette conclusion exigeante, Hélène Gazot.
Alors, la studiosité, c'est, si je me souviens bien, c'est Aristote qui avait mis en place cette idée de studiosité. C'est justement pour avoir cette attitude de vertu qui consiste à se tourner vers l'étude. La maîtrise de soi, la tempérance, qui permet effectivement de faire passer en premier l'étude.
Alors vous laissez entendre aussi que c'est une manière, en fait, de faire en sorte que l'homme s'habitue à ce que sa raison prime sur ses passions.
Exactement. Que la raison
prime sur les passions. C'est ce qui aussi fait la civilisation. C'est...
Tout à fait. Voilà. Et cette studiosité permet effectivement de dépasser le côté, on va dire, uniquement temporel, hein, de l'étude. Et si on a cette idée en tête, je disais aussi dans la conférence qu'on est spontanément paresseux. Les élèves aussi. Penser, ça fatigue. Étudier, ça fatigue. Alors, si on se met dans cette idée de vertu, de studiosité, ça peut aider les élèves à dépasser cette élan de fatigue ou de paresse. Voilà.
L'école est faite pour donner aux enfants les moyens d'accéder au bonheur, qui est une vie intérieure menée en esprit et en vérité. Merci beaucoup, Hélène Gazot, d'être venue ce matin au micro de Vivante Église pour nous parler des raisons d'être de l'école. Cette conférence que nous avons reprise ce matin, que vous avez développée, c'est donc une conférence que vous avez donnée dans le cadre de la formation Passeurs d'Espérance. C'est à Toulouse, il y a des rendez-vous réguliers. La prochaine est le 4 février. Ça sera Fernando Alonso, qui est salarié chez Airbus, qui parlera du rôle de l'entreprise. Un site internet, www.passeursd'espérance, tout accroché avec un S, si je ne me trompe pas, passeursd'espérance.fr. Cette formation qui peut très bien être dupliquée dans différents lieux dans la région. Un grand merci à vous, Hélène Gazot.
Merci à vous.
Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.